Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'avenir du travail. Le podcast où nous parlons des défis, des évolutions et des enjeux qui façonnent le monde du travail. Je suis Zaina Howard. Aujourd'hui, nous recevons un invité d'exception, Gilbert Ungbo, le directeur général de l'OIT. Merci d'être avec nous pour ce podcast.
Merci de me recevoir.
Nous avons beaucoup de sujets à traiter. Le 3 juin s'ouvrira la Conférence internationale du travail ici à Genève. La CIT, qui est souvent comparée à un Parlement international du travail, ouvre dans une période qui s'annonce une fois de plus difficile pour le marché de l'emploi et pour l'économie mondiale. Non, avant d'aborder les principaux sujets de la conférence, j'aimerais parler de la situation actuelle du marché du travail. L'OIT vient de publier une mise à jour des perspectives sociales et de l'emploi dans le monde. Elle estime que le taux de chômage mondial en 2024 s'élèvera à 4,9%. Il s'agit d'une baisse par rapport au taux de 5,0% enregistré en 2023 et d'une révision positive car la précédente projection de l'OIT pour le chômage mondial en 2024 était de 5,2%. Faut-il se réjouir de cette petite amélioration?
Tout d'abord, je vous remercie de l'occasion que vous m'offrez pour cet entretien. Effectivement, je pense qu'il est important de voir le verre à moitié plein. Une baisse du taux de chômage global, c'est une bonne nouvelle. Même si elle est très infime de 5% en 2023, 4,9%. Mais ce qui est même plus important, c'est de voir aussi la baisse suite à la révision de nos estimations depuis nos novembre, où est-ce qu'on était à 5,2% pour 2024, de 5,2 à 4,9, c'est quand même assez important. Ceci étant, il faut quand même se dire que lorsqu'on regarde les données, lorsqu'on commence à regarder les données par région, ou alors à les analyser sous l'angle des pays à revenus élevés, les pays intermédiaires ou les pays à faible revenu, c'est là que nous constatons que les inégalités non seulement persistent, mais s'agrandissent. L'autre point qui est important de soulever, c'est que depuis deux ans, nous avons commencé, en plus du taux de chômage qui essentiellement reflète le nombre de personnes sans emploi selon les statistiques et les différents départements de statistiques, mais nous avons commencé à mesurer aussi, en plus des chômages tels qu'on le connaît, le nombre total des gens qui sont, au fait, qui aimeraient travailler, mais qui n'ont pas d'emploi. En d'autres termes, en plus des chômeurs, nous ajoutons ceux qui se sont découragés et sont sortis du marché du travail et qui ne cherchent même plus du travail, même s'ils aimeraient avoir du travail. Et ce chiffre demeure quand même à 400 millions au niveau planétaire, ce qui est quand même assez préoccupant. Et plus élevé au niveau des femmes par rapport aux hommes, et surtout dans les pays les moins avancés. Juste une statistique pour refléter ce dont il s'agit, puisque l'autre dimension aussi, c'est toujours l'écart salarial entre les femmes et les hommes. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que dans les pays à faible revenu, les femmes, ceux qui sont sur le marché du travail, ceux qui ont un emploi, gagnent en moyenne 44% de ce que gagnent les hommes. Et dans les pays à revenus très élevés, pour les femmes, c'est déjà mieux, elles gagnent 73% par rapport à ce que les hommes gagnent. Mais c'est quand même un gap qui demeure de 20 à 27%. Voilà. Donc, en un seul mot, je dirais, oui, c'est une bonne nouvelle lorsqu'on regarde la quantité. Mais quand on voit la qualité de la situation, c'est toujours préoccupant.
Passons maintenant à la Conférence internationale du travail, la CIT, où bon nombre des questions que vous avez soulevées, notamment l'inégalité, seront à l'ordre du jour. Commencerons par le tout premier forum de la Coalition mondiale pour la justice sociale qui se tiendra à la CIT le 13 juin. Qu'est-ce que la coalition? Quels sont ses objectifs? Et pourquoi faut-il engager avec les gouvernements et autres parties prenantes en faveur de la justice sociale et à travers la coalition?
Vous savez, depuis la décision prise par le conseil d'administration en novembre 2023 pour la création de cette coalition, formellement parlant, nous avons été positivement très surpris de la réaction presque instantané que nous avons enregistré depuis le début de l'année. Aujourd'hui, nous avons presque entre 60 et 65 États membres qui se sont formellement inscrits. Et évidemment, nous avons plusieurs organisations d'employeurs, de travailleurs, de plusieurs universités, de la société civile, les collègues du système des Nations Unies, incluant l'Organisation mondiale du commerce, des acteurs au niveau international du développement comme Oxfam et les banques régional de développement et j'en passe. Qu'est-ce que cela reflète? Et on parle de plus de 260 partenaires enregistrés il y a une semaine. Qu'est-ce que cela représente? Ça veut dire que de partout au monde, la justice sociale au cœur des préoccupations de nous tous. Et voilà. Et maintenant, ce que nous comptons faire, bon, le 13, ça va être le lancement officiel. Et à votre question, pourquoi au-delà des mandats traditionnels du BIT? D'abord, pourquoi les mandats du BIT? Parce que le travail, il faudrait encore le répéter, le travail n'est pas une commodité. Et nous pensons que la dignité humaine passe par le travail. Et la justice sociale, il n'y aura jamais de justice sociale, il n'y aura jamais de paix durable sans la justice sociale, ça c'est le préambule de notre constitution, donc il va de soi. Mais la justice sociale, c'est aussi l'accès aux opportunités, l'égalité des chances quand il s'agit de l'accès aux opportunités économiques. C'est aussi la capacité donnée à tout le monde d'accéder à l'éducation, d'accéder à un minimum de santé. Et voilà, et c'est pour ça que ça touche aussi des domaines au-delà du BIT.
Et bien sûr, le monde du travail est en train de faire face à plein de défis et des nouvelles réalités, comme par exemple les plateformes numériques, les changements démographiques, le travail à distance, pour n'en citer que quelques-unes. Comment l'OIT envisage-t-elle d'adapter les principes et les droits fondamentaux au travail en face de cette réalité?
Au fait, on a déjà commencé à y réfléchir. Et d'ailleurs, cette discussion récurrente sur les droits et principes fondamentaux au travail, pour moi, c'est une conséquence directe justement de cette préoccupation et donc de l'appareil, de la machine que la conférence a mise en place depuis 1998, justement pour permettre cette discussion récurrente afin de répondre aux nouvelles exigences que nous avons, et de cette discussion récurrente, justement, qui va prendre en compte la question du changement démographique, la question de transition juste, que ce soit au niveau climat ou bien au niveau énergie, la question de l'intelligence artificielle, les modes de travail, de fonctionnement auxquels vous avez fait référence là-dessus. Cela va permettre à la conférence de sortir de cette discussion récurrente avec ou alors des recommandations ou bien des suggestions et pour l'organisation afin de nous permettre justement de mieux ajuster le travail dans les années à venir, surtout que dans les années à venir, nous devons préparer notre prochain plan stratégique des 4 prochaines années.
Et la CIT tiendra une première discussion normative sur la protection contre les risques biologiques. Pourquoi est-ce qu'il est urgent d'adopter des nouvelles normes internationales spécifiques aux risques biologiques au travail? Et quels seraient les principaux éléments de ces normes?
Évidemment, les principaux éléments de ces normes, je ne saurais le dire. Il faut laisser justement le débat arriver. Et après ce débat, d'ailleurs, c'est une discussion, ce que nous appelons dans notre jargon, une double discussion, c'est-à-dire une discussion qui irait au-delà de 2024, mais jusqu'en 2025, avant de conclure. Quel instrument on aura? Est-ce que ce sera une recommandation ou est-ce que ce sera une convention? On ne peut pas le dire à ce stade-ci. Ceci étant, cela reflète d'abord l'importance, vous savez, depuis 2022, le fait que la question de la SST, santé, sécurité au travail, a été levée au grade des principes fondamentaux et droits au travail. Il faut y rappeler que ces principes qui, en deux mots, regroupent finalement les 10 conventions principales du BIT, ces conventions sont, et tous les pays doivent mettre en œuvre ces conventions, qu'ils aient ratifié ou non les dites conventions. Je pense que ça, c'est important. Et donc, l'étude de la question justement biologique va en ligne droite pour voir à quel point nous sommes mieux préparés d'un point de vue santé et sécurité au travail Et aussi, je dois lui dire, c'est la résultante du travail que le groupe tripartite fait. Il y a un groupe tripartite qu'on a créé pour justement passer en revue toutes les anciennes conventions. Et ce faisant, ils ont identifié justement des gaps. C'est la réponse justement aux recommandations, à certaines des recommandations de ce groupe de travail.
Et la CIT va également parler de l'économie des soins. Quelles sont les mesures concrètes que l'OIT recommande au gouvernement pour mieux protéger et valoriser les travailleurs de l'économie des soins, qui sont majoritairement des femmes et des migrants?
Non, ça c'est clair. Et l'économie des soins, c'est pour ça que nous parlons de l'économie des soins. Et donc, ce n'est pas juste une question de santé. Donc, il y a la question de santé, il y a la question démographique. Cela veut dire aussi qui parle de l'économie des soins, parle du travail domestique. Et nous savons que le travail domestique, c'est un domaine où est-ce que 73% ce sont des femmes. Et donc, il y a un gap salarial. Nous savons aussi que c'est un domaine où est-ce que... qui implique les discussions tout autour de la migration, de la migration. Et donc, et le gap entre les pays, essentiellement les pays du Nord, comme on le dit, où est-ce que la population est vieillissante, et les pays du Sud, où est-ce que la population est encore relativement beaucoup plus jeune. Mais l'économie des soins, au fait, finalement, c'est aussi l'économie du futur là-dessus. Donc, il est important qu'on ait cette discussion afin encore pour l'organisation de bénéficier des recommandations et ajuster notre plan d'attaque, notre plan de travail en conséquence.
Et la conférence va bien sûr discuter également de la situation des travailleurs dans les territoires arabes occupés. Le dernier rapport de l'OIT à ce sujet est disponible sur notre site web. Maintenant, face à la crise humanitaire et la perte massive d'emplois dans les territoires palestiniens occupés, comment l'OIT compte-t-il soutenir les travailleurs et promouvoir le respect des droits du travail dans cette région?
D'abord, c'est une situation qui est très, 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 très pénible. Nous tous nous souvenons avec horreur le déroulement de encore ces derniers jours. Nous savons avec l'attaque du camp des réfugiés avec 45 morts. C'est pénible, c'est horrifiant et c'est révoltant, il faut bien le dire. Et ce rapport encore dénote l'impact de cette crise sur le marché du travail. Juste rapidement, à Gaza, par exemple, la situation était déjà très dure, il faut bien se le dire, avant le 7 octobre, le jour de l'attaque de Hamas contre Israël. Mais le taux de chômage était déjà de 25% à Gaza. Et maintenant, dans nos rapports que nous avons mis en ligne, on parle de 45%, donc ça a presque doublé. Même si il y a aussi l'impact, la situation s'est empirée aussi au niveau de la Cisjordanie. Et voilà, donc inutile de parler encore du travail, de la situation des femmes sur le marché du travail dans ces circonstances. Et donc c'est une situation très très préoccupante. C'est pour cela que nous pouvons encore une fois faire appel vraiment à un cessez-le-feu permanent et plutôt faire appel à des négociations pour aboutir sincèrement à la solution que tout le monde appelle une solution à deux États. Là-dessus, il faut une solution pérenne à cette crise afin qu'on arrête cette horreur et surtout au niveau du marché du travail afin que les travailleurs et aussi la PME, parce qu'on sait que dans la région, c'est beaucoup de petites entreprises qui souffrent énormément aussi de cette situation. Et nous attendons un débat une discussion assez riche et sincèrement, nous espérons que ce débat va contribuer justement à la recherche d'une paix durable.
Monsieur le DG, merci pour cet aperçu. Aujourd'hui, nous avons parlé avec le directeur général de l'OIT. C'est la fin de notre podcast. Mais pour poursuivre l'actualité de l'OIT sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre sur le compte LinkedIn de l'Organisation internationale du travail, sur notre site web ilo.org et sur Facebook et Instagram et sur X, @OITinfo. Dans les semaines à venir, nous continuerons à parler des changements qui bouleversent le monde du travail. Mais pour l'instant, nous vous disons au revoir et à très bientôt pour un autre épisode des Voix de l'OIT.